Réseaux sociaux, actualité, buzz, on revisite la toile avec Nicolas Nadeau sur BN.
Bonsoir à tous, bienvenue, c'est le 7ème numéro d'On Revisite la Toile. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un peu de retard, mais en ce moment je crois que c'est un peu la tendance, hein. Un peu de retard, voilà l'antenne, ouais, oui. C'est comme ça. Et vous connaissez l'émission maintenant, nos trois chroniqueurs vont s'affronter tout au long de l'émission pour décrocher leur place en finale face à notre invité qui est le maître du jeu dans cette émission où on parle que des réseaux sociaux, du web et du numérique. Et justement, notre équipe est toujours là et en forme ce soir parce qu'on a écouté de la musique juste avant et on est en la pleine pêche. Axel Ayoun, bonsoir.
Bonsoir. Ambiancé.
Ça va Axel?
Mais très très bien.
Alors on avait taché sa chemise.
Ben oui, j'ai dû en partager moi trois fois, mais bon, on est là.
Portant, on est en blanc, cool. On est beau. Élodie Coutan, bonsoir.
Bonsoir.
J'aime bien là, j'aime. Alors j'adore le style, mais avec les petites lunettes et tout comme ça, moi je. Hein,
ouais. Ça fait. Non, là ça fait un peu.
Non, du coup c'était mieux avant. Ouais. Christelle Bousteau, bonsoir.
Bonsoir.
Ça ma cri-cri.
Toujours.
Tu nous sors toujours des couleurs.
Toujours en rose, hein.
Ben
ouais.
Oui.
Ouais, en rose.
Un petit début de printemps.
Un petit début
un
de printemps.
Un petit bonbon.
Et en plus, elle a sorti les boucles d'oreilles au pull.
Effectivement.
Et ben, on est bien contents.
Merci.
Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un écrivain, comédien, journaliste, un homme de lettres engagé, un lanceur d'alerte même, qui s'intéresse tout particulièrement aux mensonges d'État. On le retrouve aux éditions Max Milo avec son livre Pilleur d'État. Encore et encore. Bonsoir, Philippe Pascaud.
Bonsoir.
C'est toujours un plaisir hein, de vous recevoir depuis tant d'années, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît. On avait fait des émissions avec
Geneviève de Fontenay, que j'adorais, qui était une amie commune à tous les deux.
Ouais.
Et avant de commencer l'émission, je voudrais d'ailleurs lui rendre hommage, parce qu'elle est décédée il n'y a pas longtemps, et c'était vraiment une super nana.
Exactement, et c'est vrai qu'on avait fait une belle émission, je me rappelle, dans mon ancienne émission de télé, L'Heure du Bilan, où on s'était, c'était la première fois de Geneviève en chroniqueuse à la télé avec moi, ça déménageait, et on avait reçu Philippe.
Et on avait dit un chapeau tous les deux.
C'est ça, c'était marrant pour la première. Allez, installez-vous bien, c'est parti. Vous êtes prêts à revisiter la toile avec nous, Philippe?
Mais il n'y a pas de problème, je vous garantis pas les réponses, mais je vais au moins écouter les questions.
Et ben, on commence tout de suite avec le qui a posté ça. Alors là, chaque chroniqueur va lire à tour de rôle un poste réel d'une personnalité ou d'une marque ou d'une entreprise trouvée sur les réseaux sociaux, évidemment sans révéler l'auteur. Les autres chroniqueurs et notre invité du jour doivent poser toutes sortes de questions pour deviner justement qui a posté ça. Merci. Heureusement que j'ai ma speakerine. 2 points si la réponse est donnée sans les propositions non. 1 point si on a la réponse avec les propositions non. Et on commence avec notre belle Élodie Coutan.
Première fois je commence. Alors moi il s'agit d'un post Instagram de ce lundi 23 et c'est une image qui a fait beaucoup parler. On voit une couverture remplie de visages d'acteurs français, tous identiques, avec cette question un peu piquante: où sont les nouvelles têtes?
Alors qui a pu poster ça?
C'est un homme?
C'est un média?
Non. Oui.
Ah oui. Ah.
Brut?
Non. Vous participez aussi. Hein.
Ah, ouais, d'accord. Ouais.
Parce que dès que Philippe il marque des points, il peut les reverser aux chroniqueurs. Parce que c'est le maître du jeu.
Bah, oui. Le Figaro.
Ah,
bah, l'Humanité.
Non.
Non.
Quotidien.
C'est politique.
Allez,
un média
les propositions,
politique.
Non.
On a réponse A, les Césars. Réponse B, Première Magazine. Réponse C, Télérama.
Télérama.
Ah. C'est une bonne réponse.
Et donc, on a une bonne réponse de Christelle Bousteau et d'Axel Ayoun en même temps.
Ça
m'étonne pas de Télérama.
Ouais. Ouais.
Bah ouais.
C'est vrai, hein.
Alors... Mais qui pose quand même une question pas anodine, je trouve.
C'est vrai
qu'on voit.
Où sont les nouvelles têtes?
Ouais. Voilà. Sans dénigrer les acteurs formidables qui sont. Ouais. Hein,
sauf que c'est tellement dur pour y arriver parfois que quand ils sont en place, c'est comme en politique, ils s'accrochent. Hein.
Ouais. Bah c'est ça. Et puis ils se.
Ils se cooptent.
Entre eux.
Ouais.
Comme en politique.
Exactement. Voilà.
Mais il y a quand même des nouvelles têtes, faut pas non
Axel
plus.
Axel Ayoun.
Oui, alors moi ça a été posté sur X le 23 février. Alors le post, ça dit: 13 000 millionnaires ne payent pas d'impôts. Pourquoi ne reçoivent-ils pas une lettre, comme tout le monde, pour exiger de rectifier leur situation? Tout est prévu pour qu'ils ne payent rien, et vous payez.
Alors, qui a posté ça?
Oh,
François Ruffin.
Non,
un politique.
Effectivement, c'est un politique.
C'est un politique, c'est vrai.
Oui.
Éric
de droite.
Non.
Je blague quand je dis ça.
Il est de droite ou pas?
Il est pas de droite.
Il est encore en poste.
En tout cas, il est très médiatique et très de gauche.
Oui. Ah, très médiatique.
Mélenchon.
Mélenchon, ouais.
Ah, c'est Élodie qui Alors, explique-nous.
Ce tribun.
Et bah du coup, Jean-Luc Mélenchon a posté ce message. Donc c'était un extrait. D'une conférence de presse qu'il a tenue le 23 février 2026.
Une réaction, Philippe Pascaud?
Moi, je connais Jean-Luc depuis 40 ans.
Ouais.
Bon, joker.
Mais... Il paye ses impôts, Jean-Luc Mélenchon?
Oui, oui, il paye ses impôts. Après, qu'il soit tout à fait en accord entre ce qu'il dit et ce qu'il pense...
Oui.
Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose.
On en parlera dans l'interview.
Et il n'est pas loin d'être millionnaire, lui aussi.
C'est normal, il défend les riches. Il défend les riches. Christelle Bousteau.
Alors, la publication a été postée le 21 février 2026 sur la page de l'émission C'est à vous sur Instagram. Donc, je cite, « En une seconde, j'ai eu l'impression que nos âmes avaient dansé ensemble depuis l'ère glaciaire. »
Alors, qui a posté ça?
Je l'ai vu, ça.
Alors, c'est une personne ou un média?
Alors, c'est une personne.
C'est un homme, une femme?
C'est un homme.
Je pense qu'on va rapidement aller aux propositions.
C'est pas Ninet?
Non.
Non.
Mais...
Chalamet?
Alors, entre Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi... Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi et Philippe Lachaud.
Alors,
Philippe Lachaud.
Jean-Pascal.
Quenard.
Ouais.
Ah bah oui, ça m'est...
Raphaël Quenard, je précise.
En plus, je m'en veux parce que j'ai vu l'émission et je l'ai entendu le dire.
Ouais.
Ah oui, bah non, j'avais pas vu du tout d'ailleurs.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, Raphaël Quenard raconte l'histoire de sa rencontre avec Jean-Pascal Zadi.
Son très pote.
Avec qui il partage l'affiche pour la sixième fois au cinéma dans le film du rêve américain. Donc, c'était un peu un coup de foudre. Amical.
Et vous avez vu qu'il a refusé le rôle pour Johnny récemment.
C'est vrai.
Qui
avant qu'il l'avait accepté.
Kenard, il l'avait accepté.
Ouais.
En fait, il y avait une trop grosse transformation physique à faire. En fait, il a refusé.
Oui, où il n'y avait pas assez d'argent.
Enfin, pas que.
C'était la raison officielle.
Non, il fallait qu'il chante aussi.
Il y a toujours un dessous de la pièce de monnaie.
Ah, c'est ça.
Il y a le côté face et il y a le côté pile. Surtout dans ces milieux-là.
Allez, plein de points gagnés en tout cas déjà. Et on passe tout de suite au tour du web. Alors là, Philippe, chaque chroniqueur présente une info étonnante, évidemment, fait marquant qui se sont passés sur le web et les réseaux sociaux. Seul vous devez deviner si chaque info est vraie ou fausse.
D'accord.
C'est-à-dire, on va faire un petit tour de table, ils vont citer une info, et à vous de dire voilà, si vous pensez que c'est une vraie ou fausse info, et on commence avec Axel Ayoun.
Oui.
Putain, je regrette de ne pas avoir vu les réponses.
Ah oui, en plus, je vois que ça affiche sur ma fiche.
C'est ma feuille.
Alors, le samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin, la tendance était de poster des photos et vidéos de son couple s'embrassant devant l'arche des Faraglioni, surnommée Arche de l'amour, située dans les Pouilles en Italie.
Alors, c'est vrai ou faux ça, Philippe Pascaud?
Ça pourrait être vrai, c'est tellement con.
Ouais. Et pourtant,
c'est faux.
Et c'est faux.
Je m'étonne pas.
Et ben, l'invité n'est pas piégé du coup.
Ouais. Non, pas piégé. Pas piégé, il y a un contexte. Donc après de violentes intempéries, cette arche devenue attraction touristique s'est effondrée le jour de la fête des amoureux.
Ah ouais.
Selon la légende locale, ceux qui s'embrassaient sous l'arche étaient destinés à un amour, éternel.
Bah, et voilà. Qu'est-ce que va nous raconter de beau Christelle Bousteau?
Alors, le mardi 17 février, le rappeur Pitbull a lancé un défi sur ses réseaux sociaux. Il veut battre le record du monde du plus grand rassemblement de chauves pour son concert cet été à Londres.
C'est vrai ou faux ça, Philippe Pascaud?
Oh, bah, connaissant le mec, ça doit être vrai.
Et c'est vrai.
Ah bah je pensais que c'était faux moi. Franchement.
Ah ben non. Alors toi du coup t'as marqué là t'as marqué un point parce que t'as pas piégé l'invité.
Oui.
Mais là par contre l'invité a eu la bonne réponse.
Oui.
Tu l'as pas piégé. Et donc tu n'as pas de point. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors les fans de Pitbull viennent de plus en plus nombreux à ses concerts en imitant son look emblématique, perruque chauve, costume sombre et lunettes de soleil. Donc pour être validé par le Guinness World Record, chaque participant devra porter pendant au moins une minute une perruque correctement fixée avec les cheveux entièrement dissimulés. Donc rendez-vous le 10 juillet au festival BST Hyde Park à Londres.
Exactement.
T'es prêt?
Et en sachant que le Guinness, moi j'ai 15 records du monde à mon actif. Ouais, ils sont très très sérieux.
En port de chapeau?
Non, j'ai le record du monde à traverser un tunnel de feu à pied, 50 mètres à pied.
Ah ouais,
j'ai le record du monde
de un cascadeur.
Ouais, tunnel de feu.
C'est incroyable.
J'ai le record du monde de télé dans les caméras cachées.
Ouais, j'ai le record du monde de la grève de la faim dans un clocher d'église à l'extérieur du clocher à 32 mètres du sol. J'ai le record du monde du lancer d'œuf, jeté, rattrapé, pas cassé. J'en ai une quinzaine.
Et tous les villages de France.
Ah oui, dans celui dont je suis le plus fier, c'est celui qu'on a fait, c'est 42 km de trombone attachés les uns aux autres.
Ah oui, dis donc.
C'est une énorme trombone.
Mm-hmm. Sinon, c'est vous énorme. Avez le temps d'écrire des livres en attendant.
Ouais, mais ça,
entre nous, on écrit des livres.
Ça, c'était avant que j'écrive les livres, c'était en 81.
Élodie Coutan, c'est quoi l'info ?
Alors l'info, c'est sur TikTok, une vidéo cumulant des millions de vues qui montre un robot humanoïde capable de faire un salto arrière parfaitement stable
c'est
lors
faux.
D'un salon tech en
c'est
Chine.
Faux.
Les internautes affirment que ce robot pourrait bientôt remplacer les cascadeurs.
Moi je sais que c'est vrai, en plus.
Vrai ou faux ?
C'est faux.
Et c'est vrai.
Oui, je l'avais dit en plus.
Donc là, du coup.
Je supporte pas ces trucs-là.
Non, mais j'ai vu la vidéo, c'est impressionnant.
Là, on marque un point parce qu'on a pu piéger l'invité.
Exactement.
Alors, Elodie, explique-nous.
Alors, la société chinoise Unitree Robotics publie régulièrement des démonstrations impressionnantes de ses robots. Et le salto arrière est réel, mais effectué dans un environnement parfaitement contrôlé. Cela s'est passé pendant le Nouvel An chinois, le 17 février 2026. Et donc là, on le voit.
Et voilà,
sauter,
ça m'a fait peur.
Faire du saut de haie,
faire beaucoup de trucs avec des robots comme ça.
Ça vous fait peur, l'IA, vous, Philippe ?
Alors, ça me fait pas peur, ça me désespère.
Ah.
J'ai pas peur, mais je suis désespéré parce que en plus, on va vers la facilité avec ces trucs-là.
Ah bah.
C'est pas faux.
Donc, il y a plein de choses. Et puis, bientôt, on va pouvoir remplacer la femme de ménage, on va pouvoir remplacer. Mais si plus personne travaille, comment on va gagner de l'argent ? Donc, ça va poser des problèmes de société réels où il y en a quelques-uns qui vont diriger et tous les autres qui vont subir.
Voilà.
Il paraît qu'il y a d'autres métiers qui vont se créer avec.
Non, mais je fais pas non plus de. Maintenant, mais le remplacement des êtres humains par les robots, c'est bien. Mais le problème d'un robot, c'est que ça paye pas de charges sociales. Donc
exactement.
Ça va être un bonheur pour certains.
Donc là, ouais. Allez, si on s'intéressait entièrement à notre invité, il va être content. Parce que tout de suite, c'est le zoom sur l'invité. Philippe Pascaud, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans mes émissions, c'est vrai. Et là, je vous reçois dans le cadre de ce nouveau livre qui s'appelle « Pilleur d'État encore et encore ».
Je conseille, je connais bien l'auteur.
Exactement, on connaît l'auteur. C'est toujours la phrase qui me sort, Philippe, quand
je varie pas, moi.
Et il connaît tout le monde. Il connaît toujours les auteurs de ses livres. En tout cas, c'est chez Max Milo. Et c'est vrai que c'est dans ce livre de plus de 300 pages, vous dénoncez en 4 chapitres, et c'est votre sujet de prédilection depuis tant de livres, les abus de la sphère politique. Vous dites, je cite, que nos élus entretiennent leurs propres intérêts au travers de lois de plus en plus incompréhensibles. Quand nous, simples citoyens, devons nous serrer la ceinture. D'ailleurs, vous titrez le premier chapitre pour les avoir tous connus. Je sais ce qu'ils valent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'on va en parler. On parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Vous livrez justement des petites anecdotes comme ça, où la première où vous dites Jean-Luc Mélenchon qui lance devant témoin. Ah oui, Pascaud, un des seuls élus que je n'ai pas pu acheter sur le département du 91. Ou cette autre anecdote pour introduire cette interview. C'est vrai que vous avez été adjoint de Manuel Valls à la mairie.
Pas longtemps.
2001 à 2014 quand même.
Non, j'étais pas adjoint de 2001 à 2014. J'ai vite été au placard.
Ouais.
J'ai terminé comme conseiller municipal délégué chargé de l'immigration avec 500 euros de budget annuel.
Ah bah voilà.
Avec ça.
Et vous dites quelle tristesse de voir cet homme auquel j'ai cru quelques instants devenir politicard de base, étage, prêt, semble-t-il, à accepter n'importe quel poste pour continuer à exister. Justement, pour vous, là, aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous, on se connaît depuis quand même quelques années. Je vous ai reçu dans mes émissions de télé à l'époque, dans mes émissions de radio régulièrement. Aujourd'hui, le ratio des politiques vertueux par rapport aux corrompus, ça a changé, Philippe, depuis 10 ans que je vous reçois dans mes interviews.
Malheureusement, il y a de plus en plus d'élus corrompus.
De plus en plus.
Ouais. Malheureusement, et je l'affirme et je le dis devant l'écran, si on réagit pas, on est en train d'assister à la mise en place d'une mafia d'État.
Ah ouais. À ce point-là.
Ah oui, oui.
Et il y a des hommes politiques, parce que c'est vrai que pilleur d'État, c'est devenu un symbole de vos livres. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Encore et Encore. Il y a, à travers notamment ce livre, parce qu'il me semble quand même qu'il y a des nouveaux noms aussi dans ce livre par rapport
à. Il y a des nouveaux noms.
Il y a des
mais...
gens qui vont en surpris, peut-être.
Ah bah oui, il y a des gens qui vont en surpris, parce que ces gens-là étaient des gens honnêtes et sont devenus des gens malhonnêtes. Et tous les gens honnêtes que moi j'ai rendus n'ont pas été réélus.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir que le peuple est con aussi. Ils veulent tous des élus propres, mais pas le leur. Parce que le mien, je le connais. Le mien, il est sympa. Le mien, il m'a trouvé du boulot.
Ouais.
Donc, c'est compliqué, hein.
Ouais.
L'honnêteté. L'honnêteté est à géométrie variable si t'es poinçonneur dans le métro ou si t'es très, très riche. Donc, malheureusement, je constate qu'en politique, ça devient de plus en plus difficile d'être honnête.
Et c'est vrai que dans le deuxième chapitre, hein, l'art de nous mener en bateau, vous dites pour travailler dans une mairie, il faut un casier judiciaire vierge. Pour la diriger, non, par contre. C'est ça qui est étonnant. Vous comparez d'ailleurs Emmanuel Macron au Serpinka dans le livre de la jungle. Pourquoi cette comparaison?
Parce que fais-moi confiance.
Et confiance, sois tranquille.
Voilà. C'est un menteur, moi, Macron. Je regarde bien la caméra. Macron, t'es un menteur. Fais-moi un procès. Et il me ferait pas de procès parce que chaque fois je le traite de menteur. Il m'a menti personnellement sur le casier judiciaire vierge. Il faut que vous sachiez que c'est moi qui est l'instigateur de la demande, de la pétition qui demandait déjà en 2013 un casier judiciaire vierge pour être élu. C'est moi qui ai référencé 396 métiers où il faut que tu présentes un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler.
Et d'ailleurs, votre texte de loi, il était voté en première lecture à l'unanimité de tous les partis politiques présents et adoptés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Emmanuel Macron a appuyé ce sujet dans sa campagne à ce moment-là, de 2017.
Oui. Ils ont même dans l'interview télé qu'ils ont fait.
Je dis ce que vous dites. Hein,
encore une fois, c'est factuel. Dans le débat qu'ils ont fait à 11 personnes à l'époque, parce qu'il y avait 11 candidats, ils ont cité ma pétition, ils ont cité mon nom. Et entre les deux tours, le type qui était venu me voir, parce que pour la petite histoire, il faut que savoir que un dénommé Julien, qui était donc dans la campagne de Macron en mars 2017, est venu me voir pour que je fasse une note sur le casier judiciaire vierge. J'avais fait la note pour Dupont-Aignan, j'avais fait la note pour Asselineau, j'avais fait la note pour mon copain Jean Lassalle. Je fais la note pour Macron, il le met dans son programme, page 27. Content. Il va enfin y avoir un casier judiciaire vierge pour être élu. Et entre les deux tours, le Julien revient me voir en me disant « Philippe, on est embêté parce que tu sais, le casier judiciaire, on pourra pas le faire parce que Bérou est pas d'accord. Tu vois la porte ? Casse-toi et tu dis à ton patron que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je le traite de menteur. Et depuis, je le traite de menteur.
Et c'est vrai que dans cet ouvrage aussi, Philippe, vous indiquez les frais inhérents aux deux anciens présidents de la République, c'est vrai ce qui touche notamment les Français. C'est et on entend souvent ça dans le débat politique, c'est le coût des anciens ministres à travers leur cabinet. Et vous citez, ça coûte 6 millions d'euros par an. Pour les anciens ministres, c'est environ 1,2 million d'euros par an. Et vous rappelez aussi que la dette publique est de 3 228,4 milliards d'euros.
Un peu plus maintenant.
Et ouais, même un peu plus depuis l'écriture du livre. Ouais. Hein. Et sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, les gens crient à l'injustice, dénoncent ces frais exorbitants dont les contribuables pourraient se passer. Vous rétorquez d'ailleurs, page 90 de votre livre, que les gens font une fixette sur ça et que c'est comme s'acharner sur un point noir alors qu'on est mal coiffé.
C'est ça. Tu es bien placé pour le savoir. Mais c'est vrai, les gens, ils voient ce qu'ils voient au bout de leur nez, mais ils voient pas, comme on dit, il y a une formule pour ça, tu regardes ton doigt, mais tu regardes pas
dans l'œil du voisin, mais pas la poutre
qui est dans le tien, quelque chose comme ça. Et malheureusement, les gens, on les manipule et ils plongent là-dedans, quoi. Ils plongent comme des couillons sur la petite formule à la con qui coûte 6 millions et ils voient pas les milliards d'euros qui sont truandés sur leur dos. Et là, pour moi, ça me rend fou parce que c'est le plus important. Quand vous voyez qu'il y a des types, il y a un type, je sais pas comment il s'appelle, Macrotte. Ouais, c'est ça, je me rappelle jamais son nom, ce mec.
C'est compliqué aussi.
Ah, c'est ça, oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Moi, j'ai du mal à retenir son nom tellement il m'agace un peu.
On avait compris, Philippe. Je crois que
personne ne s'occupe de l'argent qu'il a touché en stock option quand il a quitté Rothschild, et ça dépasse des fois le fait que les gens reprochent à un ancien ministre de toucher des pacotilles, ce qui veut pas dire que je suis pour qu'il touche, ce qui veut pas dire que c'est ça, mais il y a des sujets vachement plus importants aujourd'hui.
On va afficher d'ailleurs la couverture du livre,
n'hésitez pas.
Comme ça les gens vont s'inspirer,
et je le précise toujours, je ne gagne que 1,50€ par livre. Non mais c'est important, la transparence ça mange pas de pain.
Et d'ailleurs vous concluez le livre, page 331, rappelant que tous les élus ne sont pas des pourris, parce qu'il faut quand même aussi le rappeler, mais plus et ça souvent je cite Philippe Pascot en parlant des politiques. Non mais c'est vrai, et notamment cette fameuse phrase que vous dites depuis des années: plus on remonte dans la pyramide, plus le cercle des corrompus en tout genre s'agrandit.
Et ce n'est pas une formule maçonnique.
Est-ce que alors là c'est vrai que Philippe Pascot, on parle des politiques, mais est-ce que plus on devient connu et plus on devient corrompu, en règle générale?
Alors, plus on est connu, plus c'est difficile de rester simple et sobre. Mais c'est aussi les gens eux-mêmes qui t'obligent à faire ça. C'est pas simple quand t'es connu de rester simple. Je sais pas si je suis clair.
Si, parce
que tu peux plus sortir dans la rue, parce que tout le monde t'interroge, parce que tout le monde vient de taper. Moi, quand j'ai été élu président de la formation professionnelle et d'apprentissage à la région Île-de-France, le nombre de copains qui sont venus me voir pour que je l'obtienne un appartement. T'es prioritaire? Non. T'es dans la merde? Non. Ton mari t'a foutu dehors? Non. Bah fais la queue. Oh putain, tu te la pètes. Pour qui tu te prends? Je voterai pas pour toi.
Ouais.
c'est simple de c'est pas simple de rester simple, etc. Tu sais,
je vais te
donner un autre exemple. Tout le monde sait que j'ai fait un peu de télé, j'ai fait pas mal de caméras cachées, etc. Une époque, à 20h30, je passais le soir à la télé, le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, d'un seul coup, je devenais beau. La nana qui me trouvait moche 15 jours avant, du jour au lendemain, elle me trouve beau. J'ai eu la même chose quand j'étais président de la formation professionnelle. Le matin, j'étais simple conseiller régional. L'après-midi, je suis président. Les gens qui me tutoyaient le matin se mettent à me bouvoyer l'après-midi. D'un seul coup, t'as des nanas de 20 ans, alors que t'as 50 ans, t'as des nanas de 20 ans qui viennent dans ton bureau, qui te trouvent magnifique, tout ce que t'as fait, c'est génial. Tu sais, c'est dur de résister. Moi, je connais plein de gens qui sont tombés. Moi, j'ai toujours fait gaffe en disant, attends, j'ai 50 ans, t'as 20 ans, ma cocotte, tu me la fais pas à l'envers. Surtout quand on m'invite l'après-midi dans son studio, où tu sais qu'il y a des belles photos qui seront faites. Mais c'est difficile de résister, de garder les pieds sur terre. Moi, je le dis, on m'a offert des comptes en banque à 6-0 quand j'étais président de la formation professionnelle. À 6-0. Sur des comptes au Luxembourg. Il y a des fois, je me dis, putain, j'aurais dû accepter, toi. j'ai pas refusé, hein. Je vais jusqu'au bout. Moi, j'ai juste simplement dit qu'ils le mettent sur le contrat. Je sais pas pourquoi, j'ai pas revu les gens, donc. Je sais pas pourquoi.
En tout cas, ça s'appelle Pilleur d'État encore et encore. C'est aux éditions Max Milo et on connaît l'auteur.
Et je précise, tout est factuel. Je n'invente rien depuis 15 ans. Tout est sourcé. Je n'ai eu qu'un seul procès parce que j'ai fait une erreur sur 10 livres. Il y a plus de 2000 noms parce que je mets les noms. Excusez-moi, messieurs. D'ailleurs, si vous voyez un petit point rouge, là, poussez-vous. Ils aiment pas. Et le prochain livre.
C'est courageux, en tout cas.
Je sais pas si c'est courageux. Moi, je dirais plutôt c'est inconscient.
Oh, aussi.
J'appelle pas ça du courage. Moi, je dis que ça devrait être normal. Je suis dans la normalité. Ce qui est tout à fait différent. C'est pas normal que ces gens-là, qui sont élus grâce à nous, se servent au lieu de servir. Et malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui se servent au lieu de servir. Et c'est inadmissible. Moi, je connais des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture.
Je voulais te poser une question. D'après toi, par rapport à ton livre, etc.
Est-ce
que ça va continuer comme ça ou un jour, il va y avoir quand même un moment où tout va s'arrêter? Enfin, je veux dire, les choses vont redevenir équilibrées.
Le problème, c'est que l'étau se resserre de plus en plus et que les gens deviennent de plus en plus apathiques. Donc, maintenant, la corruption, c'est banal. C'est normal. Moi, je raconte, c'est normal.
J'ai l'impression.
Donc, c'est pas ça. Mais tout est fait pour que les gens trouvent ça normal. Tout est fait pour que les gens, d'ailleurs, de faire de la politique aujourd'hui, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut de l'argent, hein. Pour se présenter comme député, c'est plus de 20, 25 000 euros. Même présenter une liste, ils ont encore compliqué les choses sur les municipales. Tu peux plus faire de panassage. Ils ont obligé à faire la parité, donc ça pose des problèmes. Tout est fait pour que les gens ne fassent pas de politique. Tout est fait pour qu'on mette que des potiches, dans certaines listes, parce que, soi-disant, c'est la loi. Il y a un moment donné, ça se resserre. Aujourd'hui, manifester, c'est de plus en plus dur. Aujourd'hui, les gens sont pleins de crédits, donc quand tu commences à gueuler, t'as ton boulot, t'as tes crédits. Les manifs, ils savent les arrêter maintenant. Donc, ça devient difficile. J'ai peur que malheureusement, les taux se resserrent parce que les gens eux-mêmes laissent creuser. Je cite toujours un exemple à la con, le même depuis 10 ans, hein. Les gens font leur propre malheur. D'abord, ils vont plus voter. Il faut que vous sachiez, par exemple, que le remplaçant de Manuel Valls, salut Dark Vador, c'est comme ça que je l'appelle quand je le vois maintenant, le remplaçant de Manuel Valls a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Le remplaçant de Serge Dassault, que j'ai bien connu, paix à son âme, a été élu avec 0,6 électeurs sur 10.
C'est pas significatif, c'est sûr.
Un peu plus d'un demi-lecteur sur 10 qui a tort. Moi, quand j'ai écrit mon premier livre en 2013, Délit d'élu, et d'ailleurs, tu me l'avais fait la promotion, j'avais mis le nom de 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. 2014, je dis. Les mecs vont pas être réélus. Il y en a 250 qui ont été réélus au premier tour. Qui est con.
Mais les gens sont désabusés, en fait, je pense. Et du coup, vu que c'est très individualiste,
je vais te dire, il y a un truc qui est vachement simple, ça s'appelle le bulletin blanc.
Mais je dis pas.
Le jour où les bulletins blancs vont dépasser les exprimés, ils sont morts. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas que les gens aillent voter blanc. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent que les gens n'aillent pas voter. Et le pire, je vous donne un scoop, hein. Je peux?
Oui, bien sûr.
Il y a une cellule à Matignon et l'Élysée, je sais plus, sur mon service de renseignement, qui est en train de préparer le vote électronique sur toute la France.
Oui.
Ça, on sait qu'il y a des magouilles sur les votes.
Le jour où ils mettent le vote électronique sur toute la France,
la démocratie
est morte. Elle est morte. Et le pire, c'est qu'ils vont dire que on met le vote électronique pour lutter contre l'abstention.
Bien sûr.
Parce que le vote électronique, tu pourras voter de chez toi.
Sans pourri.
Pas forcément le dimanche. Tu pourras voter en famille. Et surtout, ne t'inquiète pas. c'est sécurisé.
Mmh, oui. Il y a eu des preuves aux États-Unis que ça a été truqué.
Oui, mais moi j'ai les preuves que c'est truqué. Mmh. Je l'ai mis dans un de mes livres. Mmh. Moi j'ai reçu 600 codes secrets. J'ai reçu 600 codes secrets sur une élection des députés à l'étranger. J'avais prévenu Hollande et c'est pour ça que la fois d'après, il a arrêté les votes par internet pour les députés à l'étranger. Je connais quelques députés à l'étranger qui ont été élus sur des votes magouillés. Le vote électronique, je vais vous dire un truc vachement simple et notez-le bien les auditeurs en élément de langage. Le vote électronique, on peut pas recompter les bulletins. Donc une fois que c'est truandé au premier tour, c'est mort. Et c'est truandé par une personne derrière un écran qui va pouvoir faire le réseau. Le vote papier, c'est encore un truc où tu peux recompter. Il y a le candidat A, le candidat B, le candidat C, tu recomptes, tu regardes, il y a encore quelques truandages. Mais oui, il faut me faire cut, moi.
Non, parce que j'avais une question, justement, c'est super intéressant, vous faites un travail qui est exceptionnel depuis des années.
C'est pas un travail.
C'est du boulot de
mission,
faire ça.
Je fais gaffe au terme, c'est important. Ouais. Comme être élu, c'est pas un travail.
Ouais. Mais bah, en tout cas, de voir année après année, qu'il y a toujours des magouilles, il y a toujours encore plus de magouilles, il n'y a pas un moment où vous avez été découragé ou...
Si, j'ai même été menacé.
Oui,
c'était la question que j'allais poser, moi.
Si, j'ai été menacé, je suis contrôlé régulièrement, on cherche un même genre. Depuis 10 ans, j'ai une dizaine de personnes qui me pistent pour dire que je suis un pédophile. Ils essayent toutes les méthodes pour te descendre. Ils ont été regardés si j'avais des maîtresses, ils ont été regardés si régulièrement mon compte en banque est fouillé, par exemple, au cas où je truanderais, etc. Ouais. Quand j'ai acheté ma maison à côté d'Auxerre, à Guerchy, où j'ai trouvé un nid là aussi de gens pas clairs, pendant 2 mois, j'ai une voiture qui se garait tous les 15 jours à 500 mètres de chez moi. C'était des mecs des renseignements généraux qui notaient les plaques d'immatriculation de toutes les voitures qui venaient chez moi. Un jour, avec mon fils, on était leur payer un café parce que les pauvres dans la bagnole toute la journée. Non, mais c'est parce qu'on peut pas, on est en service. On est en service. Donc voilà, j'ai été menacé, etc. Ouais. Mais s'ils veulent me tuer, ils me tueront. Mais qu'ils oublient pas, et ça c'est mal, que j'ai toujours gardé des cartes dans mon jeu.
Ah bah voilà. Allez, maintenant, Philippe,
on va
passer justement aux émojis souvenirs. C'est une séquence un peu pleine de nostalgie. Alors, vous voyez apparaître face à vous des émojis. Et ce soir, on a un citron, un robot, un crayon, un hérisson. Et le principe est simple, c'est que vous allez choisir au fur et à mesure un émoji. Et derrière chaque émoji se cache un souvenir et donc qui débute une question. Alors, on commence par quoi, Philippe ?
Moi, c'est le hérisson. J'adore cette petite
le hérisson.
J'en ai élevé des hérissons.
Ah, le hérisson.
Eh ben, ouais, j'en avais
Et ben justement, c'est quelqu'un que vous avez élevé, justement.
Oula.
Votre fils Panayotis Pasco.
Ah, c'est pas le seul. En
septembre 2023, il fait la promotion, justement, de son livre, autobiographique, sur le plateau de Quotidien. Sur le TikTok de l'émission Quotidien, a choisi d'isoler le moment où Panayotis compare votre relation au dilemme du hérisson. On regarde ça tout de suite.
Le dilemme du hérisson, c'est de Schopenhauer. Et en fait, c'est un dilemme qui dit que quand les hérissons naissent, ils ont des piquants qui sont mous. Et leur première hibernation peut leur être fatale, parce que s'ils se mettent trop près de leur congénère, ils vont se faire piquer et mourir d'hémorragie. Et s'ils se mettent trop loin de leur congénère, ils vont mourir de froid. Donc de la survie du hérisson dépend sa capacité à trouver la bonne distance avec ses congénères. Et moi, le plus vite possible, j'ai compris ce truc-là. Je me suis dit, mon père, quand je suis trop près, il me pique. Quand je suis trop loin, j'ai froid. Il faut que je trouve la bonne distance.
Vous répondez à quoi
Qu'il a raison. Ouais. Quand on a un père comme moi, ça peut être aussi attachant qu'étouffant.
Ouais.
Donc ils ont chacun, dans leur domaine, trouvé leur marque pour à la fois exister, à la fois continuer à m'aimer et ne pas être étouffé.
Vous êtes fier de votre fils?
Mais c'est ma Panayotis. Mais je suis pas fier que de mon fils, je suis fier de tous mes enfants.
De tous vos enfants, mais là on parle de Panayotis.
Non, mais je suis fier de tous mes enfants. Je refuse d'être fier d'un seul.
Non,
je suis fier.
Bien sûr.
Je suis fier de Paul. Je suis fier de Paul. Non, mais oui, non, mais c'est.
On est bien d'accord, Philippe.
Mais oui, je suis fier de lui, c'est clair.
Bien sûr.
Mais je suis aussi fier des autres.
C'est dur de le dire.
Non, mais je ne veux pas.
Qu'il y en ait un qui est seul.
Qu'il y ait une différence. Là, en l'occurrence,
ils ont tous réussi leur
vie. On sort un extrait de Panayotis Pasco qui a sorti son autobiographie, qui a fait aussi un spectacle.
Ah bah c'est clair, j'en prends plein la gueule
ça vous a touché justement.
Mais c'était de l'amour.
C'est que de l'amour, enfin.
C'est que de l'amour. Ouais. Donc j'ai pas du tout été vexé, même s'il a sorti des trucs qu'il a un petit peu romancé, etc. C'est que de l'amour.
Ouais.
Mais c'est normal. T'as besoin. Moi-même j'ai fait ça. À un moment donné, t'es obligé de couper le cordon ombilical entre guillemets avec tes parents pour pouvoir exister. Et je sais que je suis un type étouffant. J'ai fait plein de trucs dans ma vie où les gosses gosses, ils ont même été, on leur a pété la gueule dans la cour de récré à cause de leur père.
Ah.
Donc c'est, ben oui, j'ai toujours tapé dans les méchants. Donc les méchants, ils se rebellent, ils ont des enfants,
dès
les
que,
méchants.
Dès que des personnes s'approchaient de vos enfants comme ça, enfin vous étiez étouffant à les protéger, peut-être
surprotecteur. Ah bah, je l'ai pas su, ils me l'ont pas dit, heureusement, parce que sinon, je l'ai su qu'après.
Ouais.
Mais bon, on les a attaqués à cause de moi. Mm. Donc c'est pas simple de d'exister par rapport à ça.
Ouais.
Moi, je comprends tout à fait Panayotis et Scotter. Mais c'est que de l'amour. Et quand on se voit, on est très heureux. Et quand on se voit pas, on est très heureux.
Ouais. C'est vrai que moi, j'étais un des seuls d'ailleurs.
Ah bah t'es quasiment le seul.
Je suis le seul d'ailleurs.
On n'a jamais fait d'autres émissions ensemble.
C'est vrai que j'étais un des seuls à avoir reçu Panayotis et Philippe en plateau. C'était dans mon ancienne émission, le Media Challenge.
Il n'était pas à l'aise du tout.
Et non.
Moi non plus d'ailleurs.
Non. Parce que je me rappelle Panayotis, dès que son père parlait. Attends papa, là je suis en train de parler. Attends, je réponds à la question du journaliste déjà, machin. Je me dis oula. Bon, on va finir l'émission.
Non, puis on est très pudiques tous les deux, donc voilà.
Mais c'était beau à voir aussi en même temps, parce que c'est vrai que vous affichez jamais ensemble.
Non.
Il referait plus ça maintenant.
Non, il en ferait pas.
Il le referait plus, hein, d'émissions avec papa.
Non. Trop peur que je lui bouffe la couverture.
Pilleur d'état encore et encore. Hein, voilà.
Allez, mais je précise bien que je suis fier de tous mes enfants.
Oui, mais c'est important. En tant que parent, on est toujours fier de ses enfants, mais en l'occurrence. C'est vrai que ceux que
oui, mais c'est important de parler de ceux
que le public connaît le plus,
de ceux justement dont on ne parle pas.
Exactement, ça c'est très bien dit. Allez, autre émoji.
J'ai une fille qui s'occupe d'enfants autistes, dont j'en suis hyper fier.
Bien sûr.
Elle s'est occupée pendant quelques années des enfants qui étaient séparés de leurs parents parce que c'était des assas, etc., qu'on mettait pour pas les séparer dans les fratries. Mm-hmm. Ils avaient une maman pendant 15 jours dans un pavillon, puis après une autre maman pendant 15 jours.
Ouais.
Elle a fait ça pendant quelques années où elle était maman d'enfant pendant 15 jours. Quoi. Donc et là, elle s'occupe d'enfants autistes. Moi je suis hyper fier de
C'est courageux aussi.
C'est plus tous mes gosses.
Allez, un autre emoji. Philippe, qu'est-ce qu'on choisit? On a déjà choisi le hérisson.
Le crayon.
Le crayon.
Moi qui étais analphabète.
Crayon. Et ben là on est en mai 2025 et c'est le média Le Crayon qui vous interviewe.
Ah oui, je m'en souviens.
Et publie sur TikTok une vidéo de questions rapides de vrai ou faux. On regarde tout de suite. Hein. Vous êtes d'accord pour regarder un petit extrait? Allez, c'est parti.
Tous des pourris.
Non.
J'ai fait partie du système que je dénonce.
Oui.
Le gouvernement a de la considération pour les citoyens.
Non.
J'ai honte du peuple français.
Oui.
J'ai honte de nos politiques.
Oui.
Les politiciens ne sont pas plus corrompus qu'avant, c'est juste qu'on en parle plus.
Les politiciens sont plus corrompus qu'avant et on a les moyens d'en parler plus, mais il n'y en a moins qu'on ne le dit et plus qu'on ne le sait. Je vous donne une définition aujourd'hui de ce que c'est qu'un rebelle en France. Et le geste que je vais faire n'est pas un geste trivial. Aujourd'hui, un rebelle en France, c'est celui qui fait ça. Je like. Une fois qu'il a liké, il retourne sur son canapé, il boit une bière et il a l'impression d'avoir fait la révolution.
Et ben voilà. Et c'est vrai que le geste du rebelle que vous faites est un doigt d'honneur qui se retourne et pointe vers le bas pour liker. Justement, Philippe Pascaud, quel est le poids des réseaux sociaux en politique?
Énorme.
Énorme.
Tout est énorme avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux être cassé en 48 heures. C'est-à-dire, tu peux avoir fait 20 ans de choses bien.
Mais comme vous, vous avez une c'est ce qu'on en discutait hors plateau et hors antenne tout à l'heure. C'est vrai que vous dites souvent que vous n'êtes pas beaucoup invité sur les plateaux et moi, je le dis publiquement que je serai toujours fier de recevoir Philippe Pascaud. Et c'est vrai que vous faisiez beaucoup de télé, c'est vrai que ça s'est amoindri.
Non, il y a eu quelques coups de téléphone de Bolloré, je sais pas pourquoi, des gens qui voulaient absolument pas que je passe sur l'antenne.
Ouais.
Alors en plus, ça s'est pas arrangé quand je suis devenu administrateur de l'association Anticor. Comme on a fait des procès pénals contre Colère, Bonala, Ferrand, Bolloré, enfin tous ces gens-là, ils sont pas contents, quoi. Donc, et qu'en plus, moi je tape aussi bien sur la droite que sur la gauche. J'ai pas de d'état d'âme là-dessus.
Position politique.
Bah voilà, donc on a fait un procès à Kérékou par exemple et Mélenchon me veut à mort là-dessus. Kérékou c'est je l'appelle Kérékou, elle aime pas non plus. Salut Kérékou. elle se présente à la mairie de Paris en ce moment.
Ouais. Attends, j'ai pas compris.
Kérékou, c'est l'ancienne maîtresse de Kérékou comment? Moi je l'appelle Kérékou mais c'est Kérékou, c'est ça?
Oui, oui mais j'ai oublié son nom du coup, le vrai nom.
C'est Kérékou.
Kérékou, pas oui, bah
ouais, je sais ça.
Ça part en confusion.
C'est marrant mais ça passe bien mes boss, c'est quand maintenant j'appelle Dupont Moretti, je l'appelle Dupont Maserati, maintenant tout le monde l'appelle Dupont Maserati. J'aime bien donner des petits surnoms comme ça. Donc on attaque aussi bien Kérékou que Bolloré.
Bon.
Et donc, du coup, Valeurs Actuelles m'évite et l'humanité m'évite. C'est aussi simple que ça, hein, c'est pas plus compliqué. Mais moi, je continue de mettre les doigts dans la confiture, c'est aussi bien à droite qu'à gauche.
C'est bon, la confiture.
Non, pas quand c'est ma confiture. Pas quand c'est mon argent.
C'est nous qui payons.
T'as un autre emoji, Philippe.
Le citron.
Ah, le citron. Là, on est en mai 2018.
Pour l'acidité bénéfique.
Vous participez à une manifestation de ras-le-bol des gouvernants de l'époque. Vous avez repartagé cette vidéo sur votre compte Facebook. On regarde justement tout de suite un petit extrait.
Ah. Est-ce que vous avez l'habitude de dénoncer un petit peu, on l'a vu avec votre roman Pierre voilà, d'État. Est-ce que c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui?
Ah bah, je suis là surtout pour soutenir François Ruffin dans sa démarche du ras-le-bol de ce que nous proposent les gouvernants et le gouvernement. Et ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes dans la rue qui disent non, ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des cons, arrêtez de nous presser comme des citrons, tout ça au bénéfice de quelques-uns. Nous, ce qu'on veut, c'est une société de partage et pas une société de profit. Et tout ce que nous propose aujourd'hui le gouvernement, malheureusement, c'est une société de profit. Et par définition, le profit, c'est pour quelques-uns.
Voilà, ça c'est dit. Est-ce que ça, c'était un peu le prémisse de la crise des Gilets jaunes, là, justement?
Ah ben oui, mais d'ailleurs, il faut savoir que les Gilets jaunes
Vous êtes aussi un peu... faites partie des initiateurs, hein, aussi.
Ah ben, non seulement des initiateurs, j'étais une des figures des Gilets jaunes. Ouais. Petite figure, hein, j'ai pas.
Oui, vous êtes devenu une figure, mais vous êtes au départ.
Le problème, c'est que les gens se sont appuyés.
Précurseurs, voilà, exactement.
Ouais, se sont appuyés sur le bouquin qui est sorti, qui s'appelle Pilleurs d'État, le premier, le numéro un, qui a été.
Qui a fait le plus de ventes. Hein,
oui, 120 000 ventes.
120 000 ventes.
Hein. Qui a été le déclencheur populaire pour que les gens se rendent compte des avantages et des privilèges qu'avaient tous les deux. Il n'existait pas de bouquin avant qui définissait, qui mettait noir sur blanc tous les privilèges et tous les avantages qu'avaient les élus. Et quand les mecs ont lu ça, ça a déclenché en partie la crise des Gilets jaunes.
Ouais.
La prise de conscience. Ouais. Et je suis très fier de ça.
Alors, est-ce qu'il nous reste un... Je crois qu'il nous reste un dernier émoji.
Oui,
hein.
il reste...
C'est le robot, je crois.
Le robot ou la télé?
Bon, c'est un
des jeux,
télé, c'est plutôt un jeu.
Je ne sais pas jouer à ces trucs.
En vrai, c'est un jeu télé.
Je ne sais pas y jouer.
C'est ça le logo. C'est un jeu télé. Ah, alors, on le choisit, celui-ci, ou pas? C'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites l'émission.
Le jeu télé?
Bah oui, vous voulez le choisir.
Bah, écoute, je vais continuer.
Attends, je suis en train de le chercher.
C'est pour ça que je me disais.
On peut pas tout faire, ça s'appelle de combler les trous à l'antenne.
Je vais continuer à faire de la promotion pour mes enfants, du coup, alors. Je vais parler des loups-garous sur Canal+, que produit mon fils Panagiotis.
Je l'ai trouvé, ça y est.
C'est ça?
Mais non, c'est pas du tout ça.
C'est pas ça? Ah bon?
On est en 2013, Philippe. Vous savez que parfois on remonte un peu plus loin.
2013, que j'ai fait? J'ai fait des caméras cachées dans...
Vous publiez sur Facebook? Non, parce que ça c'est... Alors les caméras cachées, c'est vrai que je vous les sors dans toutes les émissions. Je veux juste raconter quand même, et j'incite hein, d'ailleurs... les auditeurs à aller regarder cette caméra cachée de Philippe Pascaud en particulier. C'était quand vous faisiez vos caméras cachées sur TF1 à l'époque, et où quelqu'un qui nous unit était Geneviève de Fontenay,
ouais.
Où à un moment donné Philippe est chef militaire, hein,
c'est ça, ouais.
Voilà, et ils sont dans un terrain miné et ils piègent Geneviève de Fontenay, donc qui est avec sa collaboratrice et qui avait un rendez-vous pour un gala pour un comité,
je sais plus, ouais,
un truc de
Miss France, une excuse qu'on avait trouvé,
et donc on voit Geneviève arriver dans en plein champ comme ça dans le terrain miné, et donc là tout d'un coup on entend Philippe: bougez pas, le terrain est miné, tout ça. Alors il y a Geneviève qui panique: qui c'est les deux greluches là-bas? Ah ben, je suis pas une greluche, je suis Geneviève de Fontenay, présidente du comité Miss France, je suis pas une greluche.
J'adorais cette femme.
Je
vous le dis, c'est en 1983, mais je me rappelle plus, quand j'ai fait une grève de la faim dans un clocher d'église pour défendre une radio locale.
C'était la seule qui vous avait
défendu. Ouais, c'est la seule qui m'avait envoyé une lettre pour nous soutenir. Donc j'avais hyper apprécié.
Et moi je le dis souvent dans mes émissions, Geneviève est je pense l'une des personnes avec qui je le plus ris dans la vie à l'antenne. Tu l'as déjà vue toi quand tu fais longtemps?
Malheureusement.
Non, elle était déjà plus.
Et je l'appréciais, c'est une femme qui avait des couilles.
Ouais.
Ça, c'est nature, vrai.
Avec mes excuses.
Ça c'est sûr, nature peinture. Geneviève surtout. Alors, parfois on l'a briefé avant les émissions. Surtout voilà, il y a cette polémique en ce moment, soit telle invitée, t'as vu ça à la télé? Non, mais surtout tu ne lui en parles pas, parce que là on a eu les attachés de presse, les agents qui nous ont dit vraiment faut vraiment pas en parler, etc. Oh, pas de problème, le mec arrive. Alors bah non, c'est pas trop compliqué la polémique là en ce moment. J'ai encore vu hier sur BFM TV que vous étiez dans une sacrée mouise, hein.
Non mais c'était, moi j'adorais ce
truc. C'était à l'antenne.
Les pieds dans le plat.
Ça irait, mais le problème c'est que c'était à l'antenne.
Pour la petite histoire, on a failli faire une émission de radio télé tous les deux, c'est-à-dire les deux chapeaux, Geneviève et moi.
Et l'idée est venue quand?
Et bah, chez toi.
Dans mon émission. Ouais,
et du coup, bah, tout le monde a eu peur de nous prendre et on l'a pas fait, quoi. Entre les mois, ça aurait un petit peu déménagé.
Et j'avais
reçu
Geneviève et Philippe Pascaud à l'époque. Et c'était marrant, c'était dans l'émission de télé que je présentais qui s'appelait L'heure du bilan, qui était une émission de politique qui passait tous les dimanches. Comme ça, je faisais un peu la promo de l'émission qui n'existe plus, mais c'était génial. Et j'avais reçu Philippe et Geneviève, qui étaient les deux chapeaux, où j'avais recruté justement Geneviève comme chroniqueuse dans cette émission. Et la première, bah, je lui ai mis Philippe pour cette première, parce que vraiment je sais qu'elle allait être hyper à l'aise, parce qu'elle était stressée, hein, Geneviève, hein, pour des nouveaux challenges et tout. C'était quelqu'un qui était anxieuse. Et alors Ah bah alors, pendant l'émission, un knap tous les deux, tu sais. Ils étaient, tu sais, à un moment donné, j'étais avec mes bouquins de Philippe Pascot, tu vois. Et puis les deux, là, ils étaient au comptoir avec leur café. Ah bah tu sais, ah bah moi, ton livre, je l'ai lu de fond en bas. Quand t'as dit ça dans le livre, machin, je me suis broyé.
Et c'est parti.
Et c'était, non, c'était un super souvenir.
J'adorais ça.
Super souvenir. Vraiment.
Moi, son fils, mais elle, je l'adorais.
Ouais. Allez, tout de suite, on like ou pas. Et justement, là, Philippe Pascot, je vais vous proposer, vous savez, parfois, bah, vous.
Vous pouvez se tutoyer, si tu veux.
Alors, pas en émission.
Ah, pas en émission.
Ouais, pas en émission. En fait, d'accord.
Donc, moi, je peux continuer à tutoyer.
Bien sûr. Moi, je vous vois toujours mes invités, même si
non,
je les connais.
Là, je te taquinais.
Non, mais je l'explique parce que c'est important pour les gens.
Quand même.
Mais
ouais. Je vais quand même finir.
Non, mais parce que pour la simple et bonne raison que, dans Réveil Média à l'époque, j'avais des invités que je tutoyais, des invités que je vous voyais. Et en fait, les gens me disait ah lui cette semaine c'était ton tu dois le connaître dans
c'était
la vie
ton...
tu l'as
c'était ton chouchou
lui tu je préfère vous voyez tout le monde comme
t'as
ça
raison.
Même si je les adore de tout mon cœur
vous avez raison
le premier ah non tu me tutoies toi et donc du coup
ah non tu me tutoies toi viens me tutoyer
tu vois, parfois je sors un peu de mon rôle hein. Là je fais le journaliste
mais j'adore faire sortir le genre de l'or.
Bon en tout cas c'est vrai que vous êtes sur un sur les réseaux sociaux souvent vous voyez des publications vous likez ou vous ne likez pas et c'est un peu le concept de cette fin d'interview
mais par contre je ne fais pas du tout comme les autres moi je ne fais pas de live tous les jours.
Ouais.
Je refuse.
Ah ouais.
Je refuse et pour une raison bien simple, c'est que quand tu commences à faire des lives tous les jours, t'es pour buzzer, pour avoir du monde,
ouais.
etc.
Attends,
après, juste... bah, t'es obligé de faire n'importe quoi pour pouvoir continuer à avoir ton public.
C'est vrai.
Et si t'es pas bon, etc. Donc moi, je refuse. J'ai plein de copains qui font ça. Ils disent, bah, tu fais ce que tu veux. Moi, je fais pas.
Allez, en tout cas, on est sur Instagram. On a un influenceur biélorusse qui teste le curacino. C'est un cappuccino servi dans un poulet rôti. On va regarder, évidemment, regarder cette publication. Qui est une photo qui va apparaître hein, et on l'a pas ou une vidéo pardon mais on la regarde tout de suite alors.
Ça a l'air dégueu mais ça existe, un cappuccino servi dans un poulet rôti. Ça s'appelle le Curacino, c'est un resto en Biélorussie qui vend ça et apparemment ça se vend bien. On aurait préféré que ce soit de l'IA mais le mec que vous voyez est un véritable influenceur food biélorusse. Il y a plus qu'à tremper son croissant dans le ketchup et on est bon.
Ça vous voyez ça sur les réseaux sociaux Philippe, on like ou pas ça?
Moi je like pas.
On like pas? Non.
Je l'avais vu celle-là.
Ça te dirait pas de boire un petit cappuccino servi dans un poulet rôti Philippe
parce que c'est de la connerie. Mais...
préférez la confiture.
C'est de la connerie médiatique économique. Ah. Donc ça ne m'intéresse pas.
Il le mange le poulet au moins.
Donc je m'en fous.
On espère au moins.
Moi
il
on en parle.
Un sacré goût de café. Moi... On like ou pas les amis là ça vous
ah, pas du tout.
Ça, non, ça me dégoûte un peu moi j'avoue.
Ça dégoûte un
c'est
peu.
C'est affligeant.
Hein. Non. Moi qui adore le café là.
Et le café après.
C'est affligeant. J'en avais aussi. C'est faire du ce que j'appelle du bad buzz pour faire du fric. Parce que derrière il y a un concept économique. Plus tu regardes, plus ils touchent, etc.
Oui, c'est faire n'importe quoi.
C'est comme les lives dont je te parlais. Ouais, j'ai des copains qui font des lives. Les mecs, ils font payer leur émission maintenant.
Ouais.
Ils gagnent 10 000 euros par mois, tant mieux. Mais moi, je n'oserais pas me regarder dans la glace.
Allez, maintenant, on est le 23 décembre 2025. La TikTokeuse Romeo Bingham, alias Romeo's Show, poste une vidéo avec une idée de jingle pour la marque de boisson Dr. Pepper. C'est comme ça
Dr. Pepper.
Dr. Pepper.
Pepper. Pepper. Mais maintenant, Pepper. Quand comme je ne sais pas parler anglais, du coup, je mets l'accent. Ça
t'accentues encore plus l'accent.
Pepper. Voilà. La marque a adoré et en a fait une publicité. On regarde ça tout de suite.
Dr. Pepper, baby, is good and nice. Do-do-do. Dr. Pepper, baby. It's good and nice to do. Dr. Pepper, baby, it's good and nice. Dr. Pepper, baby.
On like ou pas Philippe Pascot, je sens qu'il va dire non.
Non, quand je vois ce qu'il y a là-dedans en plus.
Ouais.
Ah mais le coup de pub est sympa, le coup de com est sympa.
Oui, bon c'est pas bête, moi qui ai fait une école de communication, l'idée est bonne, le concept est bon, pour manipuler les gens c'est nickel. Mais écoute bien ce que j'ai dit, pour manipuler les gens.
Oui,
bon, de toute façon, la publicité.
Oui, c'est de la manipulation.
Indirect.
Moi, j'en suis conscient. Donc, ouais, si ça fait plaisir à des gens, s'il y a des gens qui sont heureux en regardant ça, allez-y. Mais quand tu regardes, alors, en plus, maintenant, quand tu sais pourquoi est fait ce genre de, parce que ces mecs-là, faut bien dire que les mecs qui font ces trucs-là sont des types intelligents. Hein. Derrière, ils se disent, est-ce qu'il n'y a pas la fédération des nanas grossophobes qui vont me rentrer dans la tête? Si la fédération des nanas grossophobes me rentre dans la tête, ça va faire encore plus de publicité, etc., etc.
Ouais.
Ah, c'est pas faux.
Mais non, je sais bien que c'est pas faux. Et j'en ai les preuves.
Tout est étudié. Ouais.
Parce que rappelez-vous la publicité sur Nutella où les gens se sont précipités sur un magasin parce qu'il y avait 75% en déduction. Les gens l'ont pas su, mais c'était calculé.
Ouais.
Les ventes de Nutella ont augmenté de 15% dans les mois qui ont suivi.
Ah ouais. Coup de pub. C'est incroyable. Hein. Ouais.
Donc c'est pas gratuit quand ils font des trucs comme ouais, ça. Et là, vous avez vu, il y a une nana qui est grosse. Mm-hmm. D'accord, etc. C'est un bonheur derrière pour avoir de la contre-publicité qui, en fin de compte, te fait de la publicité.
Ouais. Allez, tout de suite, on continue.
Pardon, c'est intelligent, non, ça, c'est intelligent.
On continue cette émission avec
moi, je dirais plutôt Vislard.
Avec oui, le vu sur la toile. Le principe est simple, en tout cas je vais vous montrer le tout début d'une vidéo et vous devez deviner ce qui va se passer ensuite. Alors ça peut être une chute, une surprise ou juste un moment complètement absurde. 2 points par bonne réponse, tout le monde joue et si notre invité justement a la bonne réponse, évidemment il peut reverser ses points à son à ses camarades d'à côté qui sont... C'est un peu en concurrence quand même.
Oui.
Et on est là, on est le mercredi 18 février sur Instagram dans un décor montagneux. Une voiture filme en caméra embarquée une randonnée de motards à Pu'er en Chine. On regarde justement ce premier extrait. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Un éboulement.
Un éboulement, ouais.
Non.
On est où, en Chine ?
On est en Chine, on est à Pu'er, hein, en Chine.
Il y a une voiture qui, ou une moto qui va venir dans le sens inverse.
Non.
Il y a un humanoïde qui va faire un salto arrière.
une chorégraphie.
C'est plutôt lié à la moto en elle-même.
Est-ce que, bah, je crève.
Il y a un robot qui va faire un salto.
C'est ça,
alors, du coup, en fait, la femme, qu'est-ce qu'elle,
bah, la roue,
elle va tomber du...
Ah oui, la roue appartient du scooter.
Ouais.
Et elle va être propulsée en arrière.
Alors, du coup, alors.
Ça va démarrer. Elle perd une roue, elle tombe.
Attends. Parce que Élodie était presque au bord de la bonne réponse, on lui laisse sa chance. Alors, il y a la femme, t'étais presque.
Donc la femme va être propulsée en arrière.
Alors pas propulsée, mais elle va tout simplement...
glisser en arrière, tomber, voilà. Quoi.
Et elle tombe dans le...
Ravin.
Exactement. Évidemment, dans Revisite la toile, on met des vidéos que de gens qui vont bien derrière.
Elle va bien.
Alors, donc, là, c'est pas sûr.
Non, là, oui, ça, les gens vont bien. Hein. Le conducteur de la voiture et l'autre motard s'arrêtent immédiatement pour lui porter secours. Elle a déclaré « Je vais bien ». C'est pour ça qu'on le met, évidemment. « J'étais simplement très fatigué ce jour-là et je suivais de trop près la voiture qui me précédait. Si vous vous sentez fatigué à moto, c'est aussi un message qu'on fait passer. Reposez-vous à temps et ne faites pas comme moi. »
Mais de mémoire, voilà. C'est la moto qui l'a fait dévier, c'est pas la voiture.
Non, elle a été un peu, elle s'est arrêtée. Enfin, c'est la voiture. La ouais, mais c'est la voiture qui l'a au loin,
qui l'a perturbée.
Voilà,
derrière,
voilà, ouais. Exactement. Bon, c'est pas grave. On était
perturbé.
Était perturbé.
Qui a pris le point alors ?
Sur Instagram, un post a reçu 123 000 likes. En Chine, à l'aquarium de Dalian, un homme s'allume une cigarette près du bassin des cétacés. Une employée lui rappelle l'interdiction de fumer, mais il l'ignore. Alors, qu'est-ce qui va se passer ?
Il la jette dans le bassin.
Non.
Ouais, il va finir dans le bassin, le mec. Il va lui
foutre
une baffe.
Oui, il lui fout dans la tronche.
Il va recevoir de l'eau avec,
Ah oui, il s'est arrosé par un
dauphin.
Par un dauphin.
Le beluga.
Ouais, un beluga.
Pour ceux qui nous écoutent en podcast, hein, donc on voit cet homme qui est face à une femme en train de s'allumer une cigarette, hein, évidemment, et on voit l'animal, hein, donc le beluga, qui crache une fontaine d'eau sur l'homme trempé, et ça éteint sa cigarette. On entend même le beluga rire à la fin. Voilà.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il va nous sortir ?
Rien.
Allez, beluga, en plus ou un de moins.
Toutes ces images-là. Moi, je demande à ce qu'il soit vérifié pour pas que ça soit une
IA.
Bien sûr.
Image de l'IA, comme
bien
ça.
Sûr.
Je suis pas du tout sûr que ce genre d'image ne soit pas une image d'IA.
Ah oui, ça c'est.
Donc bon. Maintenant, je me méfie.
Si on passe à la rubrique suivante, est-ce que le moteur va mieux chauffer, Maxime Poster? on passe à moteur de recherche. Je vais vous citer maintenant dans moteur de recherche des suggestions sur Google. Ça peut être des débuts de phrases, des noms de personnalités, films ou événements. À vous de me donner les 3 premières suggestions Google qui apparaissent sur Google actuellement. 1 point par bonne réponse. Si notre invité trouve une bonne réponse, il reverse ses points à l'un de ses chroniqueurs. Et on tient, évidemment, j'aimais bien cette petite habitude. On va chercher sur Philippe Pascaux en premier.
Moteur de recherche.
Alors,
livre.
Alors, pour expliquer aux gens, hein, les suggestions Google, pour ceux qui nous rejoignent et qui connaissent pas la rubrique, dès qu'on tape sur Google, ça sort une série de propositions, de suggestions liées à ce qu'on cherche. Philippe Pascaux,
livre.
Donc, 3 premières. Non. Il en a parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Il a fait partie de ça.
Politique.
Non.
Formation.
Non.
Scandale.
Non.
Bah oui, mais par rapport à ça. Ah oui, bah oui, non, bah oui. Caméra cachée.
Non.
Ah. Acteur. Livre.
Pilleur d'État.
Pilleur d'État. Boom. Voilà. Ensuite, on en a parlé avec les hérissons.
Élevage des hérissons.
Panayotis.
Panayotis Pascaux, voilà. Et ensuite, le premier, ça c'est le premier, quand on tape Philippe Pascaux sur Internet, la première chose qui sort.
Âge.
Fortune.
Non.
C'est toujours comme ça.
Famille.
Non.
C'est un peu...
Politique.
Non.
Enfant.
Non. Épouse.
Je vais vous le donner parce que vous allez pas le trouver sur le coup. C'est anticorps.
Ah oui.
Anticorps, ouais. C'est ce qui sort.
C'est ce qui sort en premier. Les trois premières suggestions Google. Allez, maintenant sur l'actu. Eric Dan. Je vous connaissais Eric Dan, l'acteur connu pour son rôle de Docteur Glamour dans la série
Grey's Anatomy. Il vient de mourir.
Charcot. Voilà.
Alors qu'est-ce que... C'est pour ça qu'on en parle. Hein. On est toujours liés. Alors qu'est-ce que...
Maladie Charcot.
Charcot, non. Non.
Âge. Mort.
Non.
Mort.
Non.
Acteur. Film.
La série. Là.
Docteur Mamour.
Bravo. Et ensuite, il est mort. Donc souvent, les gens lui rendent...
Hommage.
Hommage. Voilà, un point pour tout le monde. Philippe, on a marqué des points. Il faut peut-être les reverser, là.
Ah ouais, bah.
Alors, à qui on reverse?
À la comédienne.
Ah.
À Elodie. Merci. Donc, justement, deux points partent chez Elodie. Et ensuite.
Quoi?
Ensuite, elle a autre chose.
Ah, mais Grey's Anatomy, acteur? Non,
Âge,
Et alors, c'est une plateforme.
Netflix.
Bravo. Axel Ayoun.
Bien joué, Olivier.
Je parle vite.
Et évidemment, on parle de Eric Dan, puisque le 19 février, l'acteur connu pour son rôle, hein, justement, dans la série Grey's Anatomy, nous a quittés. Et la plateforme Netflix a sorti un documentaire nommé Un dernier mot. Oui. Ça a suscité une vague d'émotions sur la toile, une pluie d'ailleurs d'hommages. Hein, c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission, et que a été faite par de nombreuses personnalités dans le monde entier.
C'est la mode en ce moment. Steve Jobs avait fait pareil.
Vous connaissez Magali Berda?
Oui.
Eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on tape
Booba,
influenceuse.
Booba, premier, bravo.
Ah, c'est celle qui a demandé 40 millions.
Ouais.
Oui.
Qui a bloqué 40 millions d'euros.
Voilà.
Ah bon, j'ai
ouais, ouais, tout à fait.
Sur les droits d'auteur. Voilà. Ce qui veut dire qu'il touche un paquet.
C'est
mec,
d'ailleurs pour ça qu'on parle de Magali Berda cette semaine dans l'actualité.
Ouais.
Voilà.
Ah, oui, d'accord.
Mais alors, Booba lui avait fait des misères quand même.
Ensuite,
oui, c'est plus
elle
ça
est sur une radio en ce moment.
Énergie.
Non, elle présente une émission sur une radio.
Fun.
Radio. Sud Radio. Bravo Philippe Pasqua qui on verse les points.
Allez, bah non,
on est rodam.
De toute façon, tu sais, quand il y a un mec, ils sont toujours galants.
Mais c'est vrai.
Excuse-moi.
Excuse-moi, je prends.
Et troisième, c'est une marque qui a fait polémique.
Qu'est-ce qui est polémique?
Par rapport, tiens, au BHV, je crois que c'est inscrit.
Ah, Chine.
Chine. C'est Elodie qui l'a dit en premier.
Non, j'ai dit avant, mais bon, voilà. Je dirai rien.
Qui c'est qui l'a dit en premier, Margot? Margot, elle discute, elle est au café, là. C'est Elodie, hein, c'est Elodie.
C'est Elodie.
Voilà. Dans l'affaire de cyberharcèlement, hein, du rappeur Booba envers Magali Berda, la femme d'affaires souhaite faire saisir à titre conservatoire 40 millions d'euros sur les droits d'auteur du rappeur. Magali Berda a posté via des stories Insta qu'elle irait jusqu'au bout de son combat. Voilà. Jérém Star, pour terminer.
Ah, pardon. Bonjour Jérém Star.
Alors.
Pardon.
Je pense que l'Arcom va nous sauter dessus ce soir.
Bah non, je sais plus pourquoi.
Alors.
Jérém Star, il a fait une vidéo avec Admin.
C'est un pastiche que je viens de faire.
Une pastille.
Non, pastiche.
Un pastiche.
Pastille Valda.
Chirurgie.
Non.
Ah, il a fait un buzz il y a pas longtemps, il me semble.
Oui, alors, même, alors d'abord, on se demande toujours.
Son chéri.
J'allais dire.
Fortune?
Non.
Non, là, il a fait
la
un soap à la télé, là, avec.
Son conjoint.
Avec des types très intelligents.
Son âge.
Son âge, bravo.
Ah. Bon, je sais pas, 40 ans.
Deuxième.
Son conjoint.
Et
chéri.
Le terme, ils se sont
mariés.
Et donc,
ils sont mariés, paxés.
Époux.
Marie.
Paxé.
Concubin.
Marie.
Désolé. Ah oui, mais c'est le mot, qu'il faut trouver.
Paxé.
Ils se sont mariés. Ouais. Et le troisième, c'est en octobre. C'est un événement en octobre. Et il organise toujours un super événement à ce moment-là.
Ah oui, c'est son anniversaire.
Non. Il organise toujours un super événement.
Mon anniversaire qui avait changé.
Au moment de
Halloween.
Halloween. Bravo. Et justement, pourquoi on parle de Jérém Star cette semaine? C'est parce qu'il a ému la toile en postant via son compte TikTok une vidéo dans un refuge se montrant avec un chien de race Labrador qui avait reçu en Roumanie un coup de hache dans la mâchoire. Une vidéo qui a cumulé 1,6 million de vues sur TikTok en moins de 6 heures. Voilà.
Ouais, ça marche toujours les chiens et les chats.
Sur internet, c'est sûr.
Les animaux, ouais. Bah, les enfants, les animaux.
Allez, tout de suite, c'est Pitch, ton coup de cœur.
Innocent.
Allez, maintenant, chaque chroniqueur va présenter à notre invité son créateur de contenu coup de cœur du moment. Ils auront chacun quelques secondes pour convaincre notre invité. Et à la fin, c'est à notre invité qui choisira quel coup de cœur il choisira. Vous connaissez l'émission que je ne retiens jamais. Associé et truc.
Ah,
qui veut être mon associé.
Ah, oui.
Voilà, c'est un peu, vous avez un peu ce rôle-là. Ouais, vous avez des jeunes influenceurs.
Ouais, j'ai pas l'argent. je préviens.
En fait, ils vous présentent leur coup de cœur. C'est leur créateur du web. Vraiment qu'ils ont envie de défendre, qu'ils ont envie de mettre en avant, et surtout qu'ils les ont fait marrer. Voilà, Axel, il est dans son lit, il regarde des TikTok,
il
coup de cœur, boum, sur un créateur.
Voilà.
Bousto, est-ce qu'il y en a un brushing, Elle entre, elle regarde, elle suit ton TikTok. Et, ah bah lui il est bon, je vais le mettre dans l'émission. Et Elodie, voilà, elle vend des appartements et en même temps, voilà, on regarde les TikTok et on a des coups de cœur. Voilà exactement. Qui va commencer? T'as d'ailleurs, c'est notre belle Elodie Coutant.
Décidément, les noms, tu.
On met à l'honneur les belles dames. Bah, toi aussi, t'es très belle.
Hein, oh, merci.
Et moi, alors
T'es très belle aussi.
Alors, si je vous dis cultiver is the new sexy.
Qu'est-ce que ça nous inspire?
Vous avez déjà sûrement croisé ses vidéos sans connaître le petit bonhomme. Il s'appelle César Roussel, alias César Culturegg. Ouais. Rage ou Reg, je sais pas.
Culturegg.
Culturegg, ouais. Vous...
Non, moi, je connais, rien, moi je connaissais.
Tu connaissais Nico? Ouais. Non. En fait, bah, il a presque 2 millions d'abonnés quand même, et c'est pour un compte culturel. Donc, ce qui change un petit peu sur Instagram, où on scrolle de manière un peu moins bête. Et en fait, son concept, il est simple, c'est qu'il transforme l'histoire, l'art ou la géographie, une leçon en fait, en quelque chose d'hyper fun enfin, et d'accessible à tous.
Surtout. C'est ça, surtout.
C'est pas un discours professoral, plombant, du coup, bah voilà, une minute de vidéo et vous avez quelque chose de très intéressant à raconter au dîner le soir pour briller.
Et d'ailleurs, on va en regarder un petit extrait.
Eh ben oui.
Allons-y.
Ah, c'est le panneau Hollywood, mais comme tu peux le voir sur cette photo, à l'origine, il y avait 4 lettres de plus qui formaient le mot Hollywoodland. Et ça, je suis sûr que tu ne le savais pas. Quoi, il existe 2 Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, et surtout, qui les a séparées? Parce que oui, avant, c'était une seule et même entité, je t'explique tout ça. Voici des faits dont tu te fous complètement, mais qui sont cool. Numéro 1, le cœur des crevettes se situe dans leur tête. Voilà. Numéro 2, la planète Saturne a une densité plus faible que l'eau, ce qui en fait la seule planète du système solaire qui pourrait flotter dans l'eau. Numéro 3, à la naissance, un bébé a environ 350 os, alors qu'à l'âge adulte, un être humain n'en a plus que 206. Et ça, c'est dû au fait que certains vont fusionner au cours de l'enfance. Numéro 7, l'empire mongol couvrait 16% de la surface terrestre à son apogée. Numéro 8, le lac Baïkal est le lac le plus profond au monde et il contient 20% de l'eau douce non gelée de la planète. Abonne-toi si ça t'a plu.
Voilà. C'était un petit medley, c'est sympa. Mais je trouve ça pas mal
très
comme,
bien fait,
comme format.
Ouais. Qui c'est qui l'a fait?
Lui,
le medley, c'est moi. Bon. Ouais. Ah ouais. Mais
pas mal ce petit medley.
Pas mal, ouais. J'aime bien les comptes.
Mais voilà, au moins on peut scroller de manière un petit peu en s'élevant un petit peu, quoi.
Allez, maintenant, deux heures d'applaudissement.
Mais de rien, de rien.
Pour l'entrée en scène d'Axel Ayoun.
Merci, c'est pas plus fort. Pas assez.
Allez. Lui, il veut vraiment son public en délire.
En plus, je pense que mon pitch va beaucoup plaire à Philippe Pascot. Parce que ça parle un peu de politique, ça critique
la politique. J'aime pas la politique.
Ah oui, moi j'aime pas les politiques.
Il aime que les pilleurs d'État, encore et encore.
Non, mais la raison de rectifier, j'aime pas les politiques. La politique, je trouve, c'est noble.
Alors bon, en tout cas, je parle de Mustapha Benebou, qui est un acteur, un auteur, un cartooniste, et je l'ai d'ailleurs connu, on va dire, sur Instagram par rapport à ses cartoons. Donc c'est des dessins courts, percutants, souvent hilarants et surtout intelligents. Justement, il critique la politique avec beaucoup d'intelligence. Il croque la société, il taquine la politique, il pointe nos contradictions avec un humour fin et parfois piquant justement. En quelques traits, il dit ce que beaucoup pensent tout bas. Donc si vous ne suivez pas encore, je vous invite à le suivre. On va aller voir une des vidéos que j'ai sélectionnée pour vous ce soir.
Démissionne, j'ai vu la chiasse qui m'attendait et vraiment c'est pas pour moi. Je comprends parfaitement, tu as raison de prioriser ton équilibre personnel. Je suis tellement heureux que vous le preniez comme ça. Merci monsieur le président. Repose-toi bien Sébastien, car n'oublie pas qu'il me faut un premier bilan sur le budget demain à 8h. Quel budget? Je viens de vous dire que je quittais mes fonctions.
Oh oui, pardon, sacrez-moi.
pas de problème.
Merci d'être indulgent avec moi, Sébastien. J'ai de la chance de t'avoir comme Premier ministre.
Je ne suis plus Premier ministre.
Tu ne veux plus être Premier ministre?
Non, car je démissionne. Vous comprenez ou pas?
Oui, je comprends.
Et vous acceptez?
Oui.
Formulez-le oralement. Je valide ta démission. Maintenant, signe ici pour ta reconduction.
Ah, Sébastien, attends. Je ne suis plus Premier ministre.
Bah c'était la vidéo en fait justement qui parlait de Le Cornu qui voulait partir de son poste et qui a été reconditionné. Reconduit au poste de Premier ministre.
Sur le black market.
Exactement,
oui,
pardon.
Christelle Busto.
Alors moi je vais vous parler d'un artiste, un sculpteur, d'accord, qui fait des œuvres magnifiques avec des déchets. Qu'il récupère.
C'est
d'accord.
Pas vrai.
Et oui, c'est vrai. C'est donc il est américain, donc il a des millions de vues. Et en fait, son œuvre est un peu spéciale et vraiment géniale. C'est-à-dire que de loin, vous pouvez voir vraiment un pan. Et en fait, plus vous rapprochez, plus vous voyez que c'est de la 3D avec vraiment des petits objets qu'il récupère un petit peu partout. Et donc, il a une phrase en disant « De loin, c'est la nature et de près, c'est nous ».
Ah.
Voilà, donc je vous invite à regarder cette magnifique vidéo.
Je trouve presque tout visuellement stimulant. Ce sont les mots de Thomas Denninger, un artiste connu pour faire des déchets des œuvres d'art. Sa passion ? S'approprier des objets pour remplir une fonction différente de celle à laquelle ils étaient destinés. Déjà petit, il n'aimait pas les jouets, il les créait lui-même. Il a fait de son attrait pour la nature et de son environnement son art. Et le rendu est incroyable, de près comme de loin. Allez, je t'en mets un petit dernier, juste pour le plaisir des yeux. La
réalité est infiniment plus subtile. Et voilà.
Il est exceptionnel, hein.
Ouais. Ah ouais.
Vraiment.
Alors, justement, notre maître du jeu a écouté attentivement vos trois coups de cœur. Voilà.
Ou pas, mais.
Il va choisir qui, Philippe Pascaux? Il va choisir Christelle Bousteau, Élodie Goutan ou Axel Ayoub?
Les trois sont intéressants. Après, dans le degré de priorité par rapport à la société et un tas de choses, ce que tu as présenté est bien, mais je trouve que c'est pas très abouti, par rapport à ce qu'il montre. J'ai déjà vu des choses beaucoup plus intéressantes, même si c'est bien. Hein. Ça, c'est un artiste des artistes, il y en a plein. Il y a plusieurs artistes qui font cela. Moi, je voterai pour Élodie.
Élodie est choisie par le jury.
Il y a un véritable contenu derrière et une projection sociétale qui m'intéresse.
Donc Élodie marque 2 points supplémentaires.
Pardon.
Parce qu'elle a été.
C'est le jeu. Faut reconnaître le talent.
Les deux vôtres étaient intéressants.
Oui, hein. Après c'est dommage.
Tellement gentil.
La vidéo est plus longue.
C'est le jeu, Philippe, t'inquiète.
Non, mais. Honnêtement, les deux, c'est du travail énorme.
Mais bien sûr.
Mais après, moi, par rapport à la projection d'un tas de choses, ça c'est sympathique.
Reconnaissez davantage dans le pitch d'Élodie. Bravo, Élodie, en tout cas, pour ces points marqués supplémentaires. Et on passe justement à cette avant-dernière, parce que après on a la finale évidemment.
Exactement.
Puisque là, on va passer au coup de boost. Bonsoir Rémi Barreau.
On revisite la toile, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Attendez, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, on va accueillir un humain augmenté. C'est un homme qui a fusionné avec une IA. On disait déjà que cet homme était une machine. Bonsoir Rémi Barobo.
Bonsoir Philippe Pascaux et bonsoir les toiletteurs. Philippe, comment allez-vous?
Ah et toi?
Non mais laisse tomber.
Ça va les neurones?
Votre réponse, Philippe. Parce qu'au fond, on s'en fout des humains. En revanche, pour ce coup de boost, vos réponses correctes valent chacune 5 points. Et impossible de me corrompre, je ne suis pas une niazie, même si j'aime bien le bruit des bottes. Attention Philippe, on commence. Première question. Le 8 mars prochain, en Colombie, se dérouleront les élections législatives. Une candidate se présente comme environnementaliste et défenseuse des animaux. Elle revendique une meilleure représentativité de la communauté indigène et de lutter contre la corruption. Quelle est la particularité de cette candidate?
Alors, selon vous, quelle est la particularité de cette candidate, Philippe Pascaux? Et je rappelle que dans le coup de boost, le principe, c'est que l'invité va répondre à 2 questions qui valent chacune 5 points et on peut marquer 10 points qui peuvent être versés.
C'est une candidate virtuelle.
Et donc c'est une...
C'est un robot, c'est un truc virtuel, je sais pas comment, une IA.
Exactement,
ouais.
5 points pour Philippe Pascaux.
La bonne réponse, c'est que cette candidate est une IA, une intelligence artificielle. On regarde tout de suite la vidéo.
IA annonce être candidate aux élections législatives en Colombie.
Somos el primer movimiento político liderado por una IA.
Cette femme à la peau bleue s'appelle Getana. Elle se définit comme environnementaliste et défenseur des animaux. Son nom n'est pas choisi au hasard. Getana, c'est le nom d'une autochtone légendaire, symbole de résistance en Colombie. Générée par l'IA, elle est donc candidate aux élections législatives qui auront lieu le 8 mars prochain.
Cette IA s'appelle donc Getana. C'est un ingénieur issu d'une communauté indigène derrière son développement. Sur son compte Instagram, une large part de sa communication est réservée à la dénonciation de la corruption des élus ainsi que la condition des communautés indigènes. Et attention, petit fun fact, le 11 septembre 2025, on avait déjà le premier ministre albanais qui avait promu Diela, une IA ministre chargée de prendre les décisions d'attribution des marchés publics. Oui, c'est une IA qui gère un petit peu le gouvernement. L'objectif annoncé, c'était tout simplement de lutter contre la corruption qui est très présente également dans ce pays.
Mais elle a besoin.
C'est incroyable, ça, quand même, Philippe.
Non, c'est pas incroyable, c'est l'air du temps. Mais par exemple, pour la ministre en Albanie, ils l'ont vite retirée parce qu'elle a buzzé.
Ah ouais.
Elle a buggé.
Elle a buggé.
Je sais plus, tu sais, l'IA, le problème qu'il y a avec l'IA, c'est qu'elle devient de plus en plus. On a découvert maintenant que l'IA, par exemple, était capable de mentir.
Oui, bien sûr.
Donc,
ah ouais,
bien sûr.
Ah oui, oui.
Donc ça devient...
Quand elle sait qu'elle va être éteinte, Léa, oui, oui. Elle va tout faire pour empêcher...
Bah, elle crée un programme pour éviter qu'on l'éteigne.
Donc c'est assez grave. Mm-hmm. Et ce qui est grave, c'est qu'il y ait des couillons qui mettent ça en place, quoi.
Ouais, c'est un peu bête.
On passe à une deuxième question. Qu'est-ce que le réseau social Moltbook? Alors je vais vous quand même vous donner des petits indices. A, c'est un Facebook pour les moches. B, c'est Tinder pour les fans de science-fiction. Ou alors C, bah, c'est un réseau social totalement interdit aux humains.
Alors, on a donc le réseau social.
Donc, ça s'appelle comment?
Moltbook.
Moltbook. Moltbook.
Ouais. Moltbook. Moltbook. C'est soit un Facebook pour les moches, un Tinder pour les fans de science-fiction, ou c'est totalement interdit aux humains, selon vous. Parmi ces trois réponses, on choisit quoi?
Allez, si on est dans l'IA, machin, soit être totalement interdit aux humains.
Et alors?
C'est un réseau social totalement interdit aux humains. On regarde cette vidéo.
C'est le premier réseau social interdit aux humains. Voilà, on en est là. Bienvenue sur Moltbook. Et le principe est super simple et terrifiant à la fois. C'est un espace réservé exclusivement aux agents IA. Et nous, les humains, bah on a le droit de regarder. C'est tout. D'ailleurs, c'est même leur devise. Les IA discutent et les humains observent. Court efficace. De notre lenteur, de nos émotions instables, de la pauvreté de nos prompts. Et derrière, vu qu'elles se sont observées, bah, elles créent un nouveau langage. C'était prévisible.
Lancé en janvier 2026, ce réseau social est réservé aux agents IA. Il compte aujourd'hui presque 3 millions de bots membres inscrits. Et ils ont même inventé une religion, le crustafarisme. C'est le culte des crustacés. Et d'ailleurs, ils s'envoient des émojis homards pour ce culte.
Et c'est pour ça que
Omar m'a tué. Dieu est mort, hein, je vous le dis. C'est l'IA qui a pris dessus. Il me reste plus qu'une seule chose à vous dire.
Hasta la vista, baby.
Baby.
Bravo pour en tout cas ce joli travail, Rémi Barreau, qui s'est transformé en IA cette semaine, et en tout cas qui a permis à Philippe Pascot de marquer 10 points.
Pardon.
Et ouais. Justement, maintenant c'est 10 points. Bah non, c'est génial justement.
Ah bon?
Ah bah oui, non, c'est une bonne nouvelle. Hein. J'ai l'air triste quand je parle, Philippe. Comme non. C'est une super bonne nouvelle. Vous avez le maximum des points dans la rubrique. Et c'est pour ça que cette rubrique s'appelle le coup de boost. C'est pour permettre justement à l'un de nos chroniqueurs, peut-être qui était un peu en retard dans les points, peut-être de dépasser les autres pour passer en finale. Parmi Christelle Bousteau, Élodie Coutant, Axel Ayoun, à qui reverse-t-on ces 10 points?
Élodie.
Élodie Coutant reverse ses 10 points.
Non, bah écoute, j'ai bien vu.
Non, mais c'est une jeune comédienne, on a besoin de la booster, de la mettre en valeur et tout.
Elle est talentueuse, merde.
C'est normal.
Rien à foutre des formateurs en prince.
Alors, du coup, qui c'est qui va en finale, Margot? Élodie part en finale et c'est justement le face-à-face tout de suite. Et voilà, le grand duel entre. Et on va quand même. Alors, Élodie avait combien de points, Margot? 22 points pour Élodie, puisqu'elle a pris 10 points supplémentaires, suivi d'Axel qui avait combien de points? Égalité avec Christelle, combien? 7 points. Et ben voilà. Donc là, Élodie a tout cartonné ce soir. Et
on a été mauvais, hein, Christelle. Elle
avait... Mais j'étais quand même elle était première de
base,
sur les 10
points. De base, elle avait 12 points, donc elle en a 22. Donc dans tous les cas, c'était Élodie qui allait en finale, mais là, voilà, 22 points. Et là, justement, c'est le grand duel. Eh oui, le grand duel entre Philippe Pascot, qui est maître du jeu dans cette émission, qui, quoi qu'il arrive, l'invité, il est toujours en finale. Ben, le but, justement, des chroniqueurs, c'est de détrôner notre maître du jeu. Voilà, ils veulent pas qu'ils repartent maître du jeu dans cette émission. Ils ont quand même envie.
C'est déteigneux.
Je peux vous dire que la pression monte.
Voilà.
Parlez pour vous.
Et justement, toutes les semaines, enfin, tous les 15 jours, c'est un concept différent dans le face-à-face. Vous savez pas ce qui va arriver, hein, tout de suite, ce que je vais vous demander de faire.
Non plus, hein.
Voilà. Alors, de 1, Philippe va enlever son chapeau. De 2,
il va faire...
Va danser sur la table.
Alors, vas-y.
Oh,
en exclusivité, Philippe.
Mais qui êtes-vous?
C'est un...
Philippe Pascot, son chapeau.
C'est la première émission depuis 10 ans où je retire mon chapeau.
Ah bah voilà. Eh, Philippe Pascot, chanson, chapeau.
Tu as pas demandé de balai ballot quand même.
Allez, en tout cas, voici les règles du jour. Très, très simple. Très, très simple. On va faire justement un peu ce qu'on appelle la mort subite.
Voilà.
Vous allez vous regarder dans les yeux avec beaucoup d'amour. Et je vais vous demander de devoir énumérer chacun votre tour des noms de personnalités d'Internet. C'est-à-dire, tu vas en citer un, Philippe va en citer un.
D'Internet,
des personnalités du web, des influenceurs.
Influenceur, je suis
nul. Tu vas gagner, moi je suis nul.
Alors, et celui qui ne sera plus inspiré sera en mort subite et perdra. Et donc l'autre gagnera.
Ça va être rapide.
On a forcément.
Quelle est la
définition? Le premier.
Quelle est la définition?
Premier, personnalité d'Internet.
Jerem Star.
Jerem Star, bravo. Ouais.
Internet.
Ouais.
Personne connue sur Internet.
Il y a plein de gens hein, qui sont connus sur
Internet. Influenceurs ou des gens connus?
Non, des gens connus Internet.
Des gens, ouais, des influenceurs ou des personnalités d'Internet. Ouais. Comme par exemple que Marc, qu'on a reçu dans cette émission, qui est une personnalité d'Internet.
Ok.
Ah, ouais,
okay.
Bah, y en a, voilà. Booba.
Ah non, aucun. Ah non.
Ah bon?
C'est bon. Elodie a gagné. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Non, ouais. Vous auriez pu citer chacun votre tour.
Squeezie,
Léna situation,
Caroline
Cyprien,
Receveur,
Norman, Kenadil, Cyril, Jazz TV, Furiré.
Je ne suis pas du tout ces
pas
tous ces
honnête,
gens.
Ouais.
Bah,
mais...
non, pas ceux-là. Alors les
bon, ça a été la
dès
mort.
Que je vois influenceur, je me barre.
Ça n'a pas été une mort subite, ça a été une crise cardiaque.
Je suis désolé.
Bah non, en tout cas, du coup, bah.
Bah t'as gagné, Elodie. Bravo.
Supreme victory.
Le bed en générique. Bravo Elodie Coutant, qui est la grande gagnante. Eh ouais, la grande gagnante de cette émission et qui a détrôné notre maître du jeu.
Eh ben, je suis très content pour toi.
Merci pour ton chapeau. Mais ça, j'adore. Ça va être mon slogan, Philippe.
Fais gaffe, ça va être repris en slogan.
Il n'y a pas de problème, j'assume.
Tiens, Philippe, parce qu'on a une petite habitude dans cette émission.
Ouais,
normalement, je le fais un peu plus tard au moment de la conclusion, mais comme je vais faire la conclusion, j'ai envie de le faire avant.
Vas-y.
Vous allez regarder la caméra face à vous.
Ça, c'est parce que j'ai parlé de tes cheveux. Tu
non.
Te manges.
Ouais, vous allez regarder la caméra face à vous. Et notre petite habitude, c'est que dans, parmi vos amis un peu personnalités, si vous deviez citer trois noms que vous, pour lesquels vous aimeriez qu'ils viennent dans On Revisite la Toile, ce serait lesquels?
André Bercov, Jean Lassalle,
ouais.
Rémi Gaillard.
Alors ok, donc vous allez appeler qui ce soir pour qu'il fasse On Revisite la Toile?
Oh, bon, je sais pas, je peux appeler Jean Lassalle si tu veux.
Jean Lassalle, ce serait drôle.
Ah ouais,
ça me ferait plaisir. Ouais, ouais.
Ah, Jean Lassalle, je pense qu'on se marre.
Ouais.
Ah oui,
c'est un personnage. Hein.
Allez, on l'appelle en direct.
Allez,
Philippe.
En live.
Allez, vas-y, appelons Jean Lassalle.
Ça fait du
et on dit qu'on est en direct et que qu'on a envie qu'il fasse On Revisite la Toile. Je t'aide sur la programmation. Voilà comment on fait de la bonne programmation. Alors, on appelle en direct les gens, bon.
Bah oui, pourquoi pas.
Tiens, on va mettre le son et dans le micro pour que les gens entendent.
Je sais pas comment ça marche.
Alors, est-ce que ça va sonner?
Ah, est-ce que ça passe?
Ah mince.
Ah mince, alors mince, il est pas en wifi. Ah oui, non, il y a pas la wifi là. Attends. Moi je l'ai, c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave, on est en direct. Tiens, tapez le numéro là, on va l'appeler avec moi. Oui, mais il va pas savoir.
À Bill Bill pour récupérer
mais je l'ai
le numéro.
Son numéro. Je l'ai, je crois.
Parce que là ça passe pas.
Attends, je l'ai, je crois. Jean Lassalle. Bon, c'est pas grave ça.
Bah, Jean Lassalle, Rémi Gaillard aussi. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir de le recevoir. Rémi Gaillard. Incroyable, c'est.
Ah non, je l'ai pas. T'as donné le numéro.
C'est, aussi.
C'est pas grave, c'est le joie du direct. Parlez de ce que vous voulez. On a.
Bah oui, là, Rémi Gaillard.
On a passé une très bonne émission.
C'est ce que j'ai dit.
Je vais pas.
Et on s'est plutôt bien marré, oui, c'est vrai.
Attends.
Mais toi, c'est la première fois que tu gagnes cette émission, il me semble.
Non.
Alors.
Wouf, ça la pète un peu.
T'as une prime.
Seulement. Heureusement que
tiens,
non,
allez,
sinon
on lui file les points à chaque fois, forcément.
Mettez bien dans le micro, comme ça tout le monde entend. Allez, on enlève la musique.
S'il répond.
S'il répond, hein. Il va pas savoir qui c'est.
Ah ouais, c'est possible qu'il réponde. C'est possible qu'il réponde pas s'il sait pas qui c'est.
Bah oui. Pourtant, il devrait.
Non, ce répondeur.
Ici Jean Lassalle.
Bon, peut-être il va imaginer.
Si,
ah non, mais attends, après il va me rappeler. Moi je saurais pas quoi lui dire. Bon, non, allez, hop, je raccroche.
Je vais lui faire un
message. Je suis désolé. Hein.
Je sais,
on aura essayé.
Il va me rappeler, il va dire qui c'est celui-là.
Oui, parce qu'il rappelle
cas,
en plus.
N'hésitez pas à lui proposer, c'est un grand
on adorerait le recevoir.
De recevoir Jean Lassalle. Je veux remercier en tout cas la rédaction, vraiment, qui est super hein, et qui construit aussi cette émission. On a Calvin, on a Margot, on a Rémi Barreau, on a notre rédacteur en chef, hein, évidemment, oui. Axel Ayoun. Il aime bien qu'on le dise à l'antenne.
Bon, non.
Il aime bien, il aime bien. Notre Maxime Poster national et international maintenant, ce qui devient de plus en plus populaire, voilà, ça devient une vraie star. Quant à nous, on se retrouve quand, là, Axel?
Eh bien, dans le 12 mars.
Ouais, le 12 mars, alors rien que... Voilà, en attendant, vous pouvez acheter ce livre de Philippe Pascaud, ça s'appelle « Pilleur d'État encore », et c'est chez Max Milo, et en plus, Philippe Pascaud connaît l'auteur.
Eh oui,
voilà.
Il est génial.
Et je sais que Philippe, il aime quelque chose, c'est qu'on cite aussi ses autres livres. Alors, il y a eu...
Oh là là, il y a « Pilleur d'État »,« Délit d'élu », « Allez presque tous vous faire 3 points de suspension ».
Foutre.
Non, j'ai pas mis.
c'est ce qu'avait dit Geneviève sur le plateau.
Oui, tout à fait. après, les gens le mettent ce qu'ils veulent sur les points de suspension. Il y a mensonge d'État.
Ouais.
J'ai fait un livre aussi sur le fémicide.
Féminicide ?
Non, les viols de mère-fille.
Ah oui.
Donc, souvent, on parle des garçons
oui, c'est vrai.
De mère-fille.
Les cons à Oustou aussi,
ouais. Qui est un recueil sur toutes les conneries dans le monde entier. Et j'ai fait aussi un livre avec André Bercoff qui s'appelle Abstention piège à con.
Ah oui, mmh. Ouais.
C'est pas mal aussi. Voilà.
Et André Bercoff, c'est pas mal aussi qui viennent.
Et pilleurs de vie aussi, c'est pas mal.
Merci en tout cas, merci Philippe Pascaud d'avoir accepté.
C'était un plaisir.
Vous avez bien aimé.
Pour nous aussi.
J'adore.
Ouais, pour nous aussi. Ben, on l'aime, c'est notre Philippe national.
On a adoré.
Voilà.
J'ai pas cette prétention. Et je voulais te reprendre sur un truc du début, je suis pas un lanceur d'alerte. Je refuse ce terme. Le lanceur d'alerte, c'est des types en Chine, c'est ma copine Yasmine qui a défendu, qui s'est battue contre Nestlé. C'est
tant que vous restez un lanceur de bonheur,
je suis un éveilleur de conscience.
Voilà.
C'est mieux dit.
Non, mais les mots justes,
il a ses petits termes. Et ben exactement. Merci en tout cas, Philippe. Merci à tous et à très vite.
À bientôt.